Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
En Lituanie, les exilés biélorusses ne sont pas tous bienvenus. Certains sont soupçonnés d'espionnage. Quels politiques européens ont partagé leurs photos avec Donald Trump lors de l'investiture? On verra ça dans notre revue de presse. Enfin, l'Europe et la régulation de la tech. On attend des actes forts. Voilà le programme d'Accent d'Europe aujourd'hui. Bonjour à tous. Il n'y a pas grand-chose à attendre des élections de dimanche en Biélorussie. Le président Alexandre Loukachenko, au pouvoir depuis 30 ans, a emprisonné tous ses opposants ou les a contraints à l'exil. Après le scrutin truqué de 2020 et les manifestations monstres qui avaient suivi, 60 000 Biélorusses avaient trouvé refuge dans la république voisine de Lituanie. Mais aujourd'hui, les voilà menacés par un autre danger. Leur titres de séjour ne sont plus automatiquement renouvelés. Il y a suspicion, car des espions se seraient infiltrés dans le pays. Le gouvernement lituanien serre donc la vis. C'est le reportage de Marielle Vituro.
Dans le dernier rapport des services de sécurité lituaniens, un chapitre entier est consacré à la Biélorussie. Extrait du document sur le site des services de renseignement.
Le régime biélorusse considère les liens des États occidentaux avec les forces démocratiques biélorusses comme sa principale menace. En raison des organisations d'opposition qui sont installées en Lituanie et le nombre croissant de Biélorusses qui s'y installent, le pays est l'une des cibles principales du renseignement et l'activité y est particulièrement intense.
Le député Gigimantas Pavilionis travaille dans le groupe d'amitié avec les mouvements d'opposition biélorusse. Il s'engage depuis longtemps pour soutenir une Biélorussie démocratique et indépendante.
La Biélorussie et la Lituanie ont formé un État commun pendant des centaines d'années. Nous devons tous faire en sorte que les Biélorusses puissent se libérer de l'emprise de Moscou. Mais il faut savoir séparer le bon grain de l'ivraie. Il y a eu plus d'un cas où nous avons mis au jour le cas de Biélorusses en Lituanie qui travaillaient pour l'autre côté.
Ces 10 dernières années, 5 personnes ont été soupçonnées d'espionnage en faveur de la Biélorussie, annoncé récemment le parquet général de Lituanie. Ce sont néanmoins des centaines de permis de séjour qui ont été annulés pour menaces à l'égard de la Lituanie, 1413 en 2023. Gurtam est l'une des plus grandes sociétés biélorusses installées à Vilnius. Elle développe des logiciels pour les flottes de véhicules. Les sociétés de nouvelles technologies ont été le fer de lance des protestations en 2020. Après la répression, la société Gurtam a définitivement quitté la Biélorussie. Au début de l'année 2024, 3 employés ont dû quitter l'entreprise après que leur carte de séjour a été annulée. Alexei Choko, le directeur.
Un employé a travaillé dans la milice il y a 15 ans. Mais il y a 15 ans, la milice en Biélorussie était quelque chose de complètement différent de ce qu'elle est aujourd'hui. Un autre a indiqué qu'il avait travaillé comme peintre dans les locaux du KGB pendant un mois, quand il n'avait pas de travail. Et il a indiqué ça dans le dossier de demande de permis de résidence.
Par la suite, les critères représentant une menace pour la Lituanie ont été élargis. Ce n'étaient plus les personnes ayant travaillé dans l'armée ou la milice, mais aussi dans le secteur public. Dans son entreprise, Alexei Choko a eu un cas comme celui-là.
Il y a eu aussi le cas encore plus problématique d'un employé dont la femme avait été embauchée dans une banque publique en Biélorussie. Son permis de séjour a été aussi annulé pour lui. Nos employés ont commencé à perdre confiance.
Récemment, le cas de Vassil Veramechuk, qui a combattu auprès des Ukrainiens, a fait grand bruit. Après avoir vu son permis de séjour annulé en Lituanie, où sont restées sa femme et sa fille, il s'est réfugié au Vietnam. Là-bas, il a été arrêté et extradé vers la Biélorussie. Un cas qui a fait réagir Svetlana Tsikhanouskaya, la chef de ville des opposants biélorusses, réfugiés en Lituanie depuis 2020. Elle a demandé de renforcer la protection des Biélorusses au niveau international. Depuis le début de la guerre russe contre l'Ukraine, il y a presque 3 ans, le nombre de réfugiés russophones a explosé en Lituanie. Aux 60 000 Biélorusses s'ajoutent désormais 80 000 Ukrainiens et 15 000 Russes, en tout 5% de la population, du jamais vu en Lituanie. Rytis Satkauskas est un avocat spécialisé dans les questions de migration.
À partir de 2023, on a commencé à se poser des questions dans le discours public, à savoir si le nombre de russophones ne représentait pas une menace pour la sécurité.
L'avocat relève que la Lituanie accorde de moins en moins l'asile aux Biélorusses.
Un décret du ministre de l'Intérieur début 2023 a limité les possibilités des demandeurs d'asile de prolonger légalement leur séjour. Ils ne pouvaient plus renouveler leur carte de séjour en attendant la décision de l'octroi de l'asile. Ainsi, ils ne pouvaient plus travailler et si leur demande était rejetée, ils étaient obligés de retourner en Biélorussie ou d'aller dans un pays tiers s'ils le pouvaient.
Depuis la fin 2024, la Lituanie a un nouveau gouvernement dirigé par les sociaux-démocrates. L'opposante biélorusse, Svetlana Tsikhanouskaya, a rencontré les nouveaux dirigeants. À chaque fois, cette question est au cœur des discussions.
Et pour notre revue de presse de la semaine, Franceline Beretti, on n'a pas fini de parler de Washington et de l'investiture de Donald Trump. Parmi ses sympathisants européens, on s'est beaucoup bousculé sur le net pour montrer qu'on y était.
Comme souvent, ce sont ceux qui en parlent le plus qui le sont le moins. L'approche incontestée, c'est la présidente du Conseil italien. Giorgia Meloni était invitée au Capitole. Des images d'agences de presse la montrent en train de rigoler avec le président argentin, Javier Milei, derrière l'homme d'affaires français Bernard Arnault, qui, lui, photographie le plafond. Elle tenait à y être, Meloni, à cette prestation de serment.
Je pense qu'il est très important pour une nation comme l'Italie, qui a des rapports extrêmement solides avec les États-Unis, de témoigner de sa volonté de continuer et même renforcer cette relation à un moment où les défis sont mondiaux et interconnectés.
Sur ses réseaux sociaux, l'Italienne n'a posté ni selfie dans le Capitole, ni commentaire extasié. Elle est restée sobre. Il y en a un qui a fait encore plus sobre, puisqu'il était bien invité au Capitole, mais qu'il n'est pas venu. C'est le Premier ministre hongrois, Viktor Orban. Mais les cas les plus intéressants sont ceux restés à la porte du Capitole. Le député flamand Tom van Grieken, dirigeant du Vlaams Belang, le parti d'extrême droite du nord de la Belgique, a publié son carton d'invitation et une photo de Donald Trump. Sauf que d'après un journaliste de la télévision flamande, il a dû se contenter de la soirée dansante. En fait, chez les nationalistes européens, Trump a tellement la cote que beaucoup se donnent du mal pour essayer de faire croire qu'ils sont dans les petits papiers du nouveau président américain. La palme revient à l'eurodéputée française Sarah Knafo de Reconquête, la compagne d'Éric Zemmour. Depuis dimanche, son compte Instagram rappelle les pénibles soirées diapo d'un oncle qui tient absolument à tout partager de son voyage. 28 publications en 3 jours seulement.
Bonjour à tous, je suis dans l'avion pour Washington. On va bientôt décoller, il y a Eric à côté de moi qui est en train de discuter à côté.
Les médias français se sont bousculés pour interviewer Sarah Knafo, telle une envoyée spéciale, BFM, LCI, France 2, CNews. Et elle a évidemment raconté ses impressions à Cyril Hanouna.
Comment allez-vous, Sarah Knafo? Ça se passe bien?
Ça va très bien. Écoutez, là, je suis au Capitol One. Il y a Donald Trump qui arrive dans quelques minutes, donc il va y avoir de plus en plus de bruit derrière moi, mais au moins vous vivez le moment avec moi.
Eh ben, merci, vous êtes un amour.
Malgré ses efforts pour cultiver l'ambiguïté et malgré ce que certains médias français ont raconté, non, les représentants de Reconquête n'étaient pas invités par la Maison Blanche au Capitole. Le Figaro cite d'ailleurs un proche de leur ennemi politique, Marine Le Pen. Selon lui, ils ont, comme tous les autres, été invités par un think tank américain qui distribue les cartons à de nombreuses formations politiques.
Et puis Franceline, le vent du changement ne vient pas que des États-Unis. Il était palpable avec cette interview du Premier ministre grec dans un média allemand.
Les journalistes de Table sont obligés de rappeler le contexte avant de lancer l'interview. Il y a environ 10 ans, la Grèce était au bord de la banqueroute. Ses dettes étaient tellement grandes que le ministre allemand des Finances, Wolfgang Schäuble, voulait la sortir de la zone euro. Aujourd'hui, le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis tient sa vengeance. Il s'autorise même à donner des conseils à Berlin.
Nous observerons les réformes que l'Allemagne appliquera, espérons-le. Je me réjouis que parmi les propositions de la CDU-CSU en figurent certaines très similaires à ce que nous avons appliqué en Grèce en arrivant au pouvoir. Nous avons supprimé des impôts, dérégulé, digitalisé l'État, et ça s'est traduit par une croissance plus élevée que celle de la moyenne européenne.
Parmi les choses qui changent aussi pour l'Allemagne, le Guardian publie les résultats d'un sondage commandé par Berlin auprès des Français à l'occasion de la célébration des 62 ans du traité de l'Élysée, hier. Le couple franco-allemand en prend pour son grade. En 2020, 53% des personnes interrogées le considéraient comme le moteur de l'intégration européenne. Aujourd'hui, elles ne sont plus que 18%.
La revue de presse sonore de Franceline Beretti. Mais que fait l'Europe pour se protéger des agressions d'Elon Musk sur X, qui soutient sans faille l'extrême droite allemande, ou du patron de Facebook, Mark Zuckerberg, qui déclare abandonner le fact-checking? Pas grand-chose, jugent les plus sévères. Trop tard, disent les autres. Bonjour Léo Lictevou.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des questions numériques dans le média Contexte. Comment expliquer ce manque de réaction ?
Bien oui, c'est étrange. La Commission ne manque pourtant pas d'armes pour répondre à des provocations pareilles. Elle est même bien mieux équipée qu'il y a 8 ans. Ces dernières années, les eurodéputés et les États membres se sont mis d'accord sur plusieurs lois pour mettre fin au Far West numérique. Cette métaphore, elle n'est pas de moi, mais de Thierry Breton, l'ancien commissaire européen au numérique, qui avait porté ces textes. La plus connue de ces lois, c'est certainement le règlement sur les services numériques, le DSA, pour Digital Services Act. Cette loi, elle demande aux plateformes d'être transparentes et neutres en matière d'algorithmes et de recommandations, ou encore de mettre en place une politique de modération des contenus haineux et illégaux. Elles doivent aussi être en mesure de réagir aux crises et aux risques systémiques, c'est-à-dire d'éviter qu'en période de guerre, d'élection, de pandémie par exemple, elles ne deviennent des foyers de désinformation.
Et qu'est-ce qui se passe, Léo, si ces plateformes ne veulent pas s'y plier ?
Eh bien, à ce moment-là, la Commission peut engager des procédures pour confirmer qu'elles enfreignent bien leurs obligations. C'est ce qui se passe en ce moment avec X, contre qui une enquête a été lancée en décembre 2023. Celle-ci peut déboucher à terme sur des sanctions qui peuvent aller jusqu'à 6% du chiffre d'affaires de l'entreprise. La Commission enquête par ailleurs contre Apple ou Google au titre d'une autre loi, le règlement sur les marchés numériques ou DMA. On parle ici de concurrence et d'interdire aux géants de la tech de prendre en otage les plus petits concurrents dans leurs écosystèmes. Donc on a les armes et on sait les utiliser. Depuis 10 ans, l'UE a été particulièrement offensive contre les entreprises de la tech, américaines mais pas que, et leur a imposé plusieurs milliards d'euros d'amende pour non-respect des règles sur la protection des données ou la concurrence, par exemple. Pourtant, depuis 3 semaines, au lieu de montrer les dents, l'Europe ressemble plutôt à un lapin pris dans les phares d'une voiture.
On peut dire que depuis plusieurs semaines, il n'y a pas eu de réaction très forte face aux sorties de Musk et Zuckerberg.
Mais il y a eu des réactions, mais seulement des réponses très diplomates. Faut dire qu'au même moment, Ursula von der Leyen a été hospitalisée pour une vilaine pneumonie et que la commissaire au numérique, la finlandaise Enna Virkkunen, est plus connue pour son flegme scandinave que pour ses coups d'éclat auxquels nous avait habitué Thierry Breton. Mais ce qui inquiète surtout, ce sont les révélations de plusieurs médias selon lesquelles Bruxelles voudrait plutôt mettre en pause les enquêtes déjà bien avancées contre les géants de la tech dans le but d'apaiser Donald Trump. Alors la commission a démenti. Elle a fini par envoyer, au bout de 2 semaines, une demande d'information à X pour s'assurer qu'Elon Musk n'ait pas tordu ses algorithmes pour booster artificiellement certains comptes d'extrême droite. Elle surveille aussi les conséquences que la fin du fact-checking que Meta a annoncé aux États-Unis pourrait avoir en Europe. Mais c'est trop tard, le mal est fait. Ces rumeurs ont semé le doute et l'inertie de la Commission agace les eurodéputés et même certains ministres dans les États membres.
Alors comment expliquer que la Commission ne réagisse pas plus fermement ?
Ben, l'hypothèse la plus probable, c'est qu'elle craigne de mettre le feu aux poudres. En fait, avant l'élection américaine, les proches de Donald Trump ont été nombreux à dénoncer cette régulation européenne de la tech. Son vice-président, J.D. Vance, avait même menacé de couper les aides à l'Ukraine si l'Union européenne sanctionnait X. Dernièrement, le patron de Meta, Mark Zuckerberg, avait même demandé à Donald Trump de défendre les entreprises américaines visées par des amendes européennes, si besoin, avec des mesures de rétorsion commerciale. En fait, tout ce beau monde appuie là où ça fait mal pour l'UE. La compétitivité économique et le soutien à l'Ukraine, ce sont les priorités du moment.
L'Union européenne, les régulations numériques et l'Amérique de Trump. Merci Léo Lictevou.
Merci.
À bientôt. La série est un succès. Elle a rassemblé un quart des Serbes devant leur écran. Opération Sabre, Sablia s'inspire du réel et revient sur les heures sombres de l'après Milošević en Serbie. En 2003, le président Zoran Đinđić est assassiné. Le pays est alors divisé entre nationalistes et pro-démocratie. Un traumatisme qui pèse encore lourd dans la vie politique d'aujourd'hui. Les explications depuis Belgrade de Louis Seyer.
Elle est assurément la série serbe de 2024. Diffusée en novembre sur la RTS, la télévision publique, les 8 épisodes d'Opération Sabre ont réuni à chaque fois plus d'un million de téléspectateurs dans un pays qui compte 6 millions et demi d'habitants. Les événements autour de l'assassinat du premier ministre réformateur Zoran Đinđić ont passionné Sarah, une étudiante en psychologie.
La série est bien faite, elle est très dynamique, il y a des éléments d'action et les dialogues sont bien écrits. Elle peut servir en quelque sorte de document d'archive pour que les gens s'informent sur cette période sans être influencés par une quelconque idéologie. La série donne aux téléspectateurs la possibilité de relier entre elles des informations afin que l'on puisse mieux juger cet événement. En ce sens, elle est importante.
Au lendemain de l'attentat qui a coûté la vie à Zoran Đinđić, 200 personnes ont été interpellées ces dernières heures à Belgrade.
Le 12 mars 2003, le premier ministre Đinđić est abattu par un sniper à l'entrée d'un bâtiment gouvernemental. La Serbie est au bord du chaos et les autorités déclarent l'état d'urgence. Tout en tension et maniant avec brio les codes des séries de gangsters, Sablia revient sur l'opération main propre à la Serbe qui a suivi cet assassinat. Plus de 10 000 personnes seront arrêtées dans le monde de la pègre, mais aussi au sein des institutions gangrénées par la corruption. À la tête d'une coalition hétéroclite, Zoran Đinđić a incarné les espoirs d'une Serbie démocratique prête à tourner la page des années 90. Une décennie noire marquée par les guerres d'ex-Yougoslavie et les crimes du régime de Slobodan Milošević, qui s'est terminée avec les bombardements de l'OTAN et la révolution d'octobre 2000. L'assassinat de Đinđić par un membre de la garde rapprochée de Milošević reste encore aujourd'hui un traumatisme pour la société serbe. Interpréter le premier ministre réformateur, un rôle difficile pour l'acteur Dragan Mićanović.
Tout d'abord, la distance historique est relativement faible, 20 ans. Donc il y a une majorité de personnes qui se souviennent de Zoran Đinđić, qui se souviennent de qui il était. Et tout le monde a sa propre opinion sur lui. Vous devez donc jouer quelqu'un qui n'a laissé personne indifférent en Serbie, que ce soit avant ou après sa mort. Chacun avait une opinion sur qui était Zoran Đinđić et quel genre de personne il était. Jouer une telle figure historique, ce n'était pas un rôle facile.
Si l'interprétation et une mise en scène très efficaces ont été largement saluées, beaucoup comme Lucia critiquent un scénario qui s'écarte des faits historiques et laisse trop de place à la fiction.
J'ai regardé la série, mais je dois dire que je ne suis pas entièrement satisfaite. Elle a très bien commencé, il y avait des éléments de fiction et des éléments documentaires, mais au fur et à mesure que la série avançait, tout a fini par n'être pratiquement que de la fiction, et je ne pense pas que ce soit une bonne idée.
Plus de 20 ans après son assassinat, Zoran Đinđić reste un symbole des divisions d'une société qui balance entre ouverture démocratique et repli nationaliste. Dans le centre de Belgrade, son portrait s'affiche en grand sur un mur, symbole de la démocratie et de l'ouverture. Mais il est régulièrement aspergé de peinture rouge par les nationalistes qui l'accusent d'avoir donné Slobodan Milošević à la justice internationale. Pour Selena, une peintre franco-serbe de 66 ans, l'actuel président Vučić et son gouvernement portent une lourde responsabilité.
La Serbie sera une autre chose s'il n'était pas tué. À partir de 2000, on croyait que c'est enfin quelque chose, en fait, quelque chose d'autre qui va se passer. Mais maintenant, on a les mêmes gens qui étaient avec Milošević. C'est la même. Ils ont pire.
Alors qu'il devait être inauguré fin 2023 par les autorités, un monument rendant hommage à Zoran Đinđić attend toujours d'être installé dans le centre de Belgrade, 21 ans après son assassinat.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Théo Raison. Retrouvez-nous en podcast sur notre site, sur l'application Pure Radio et sur les réseaux sociaux. À bientôt.